Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média numéro 400. Et c'est justement cette date, merci en régie, c'est justement cette date qui marque l'annonce par le président de la République de la réouverture des musées, des salles de théâtre et de cinéma et ensuite des festivals. On ne pouvait pas nous faire, vous faire, davantage plaisir. Au menu, ça n'a pas varié, tous les médias et toutes les formes de culture. Et le mot menu prend tout son sens puisque dans les indispensables, on va vous parler littérature et gastronomie avec le retour des beaux jours, donc du barbecue. Vous retrouverez évidemment notre 5 majeur, Hélène Manarino, Bertrand Chameroy, Eva Rock, Antoine Janton et Louise Bernard. Notre infomédia avec cette question, saviez-vous qu'avant sa disparition il y a 2 siècles, le 5 mai 1821, Napoléon a échappé pas moins de 6 fois à la mort, dont une tentative de suicide. Et au milieu d'une avalanche de commémorations, c'est l'objet d'un documentaire pas comme les autres sur Arte, signé Mathieu Schwartz. Il sera dans ce studio. Et puis une renaissance, le magazine Cent Idées qui renaît de ses cendres. Dans les années 70, il apprenait aux mères de famille à faire leur pain à la maison, des robes en crochet ou des lampes en macramé. C'est devenu affreusement ringard, le magazine a coulé, mais en 2021, le recyclage est devenu furieusement tendance et le magazine ressort aujourd'hui. Nous serons avec sa rédactrice en chef, Amélie Lamiran. Enfin, la comédienne Gwendoline Amont pour la nouvelle saison, la 5e de la série Cassandre, dont elle a le rôle titre et qui démarre ce samedi sur la 3, durant prime son portrait inattendu. C'est peu dire qu'elle est attendue. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média numéro 400, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour comment Antoine Janton, comment
pardon,
on dit
oui. Joyeuse émission versaire.
C'est très bien. Il n'y a pas de musique pour ça, mais on peut le dire comme ça. Bonjour Antoine.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias, Antoine.
Une grève au journal 20 minutes. Stéphane Guy, bientôt de retour à la télé. Et puis l'adolescence au cinéma. Ce sera notre focus programme du jour.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise. Qu'ont regardé les Français hier soir? Je sais qu'il y a du carton.
Alors je vais utiliser un adjectif que je crois que je n'ai jamais utilisé dans les audiences. Ouais. C'est un score stratosphérique pour la série de TF1 HPI. C'était le lancement hier. On en avait parlé avec vos deux invités, Mehdi Nebbou et la créatrice Alice Chégaray-Brugnaud.
Donc on leur a apporté énormément chance.
Je crois, oui. Vous avez vu comment je fais durer le suspense?
Ah oui, bah,
un
allez-y,
peu
allez-y.
Attention, ouvrez bien les oreilles. 9 340 000 téléspectateurs. Une moyenne des deux épisodes. Hein. Le premier est à 9 770 000. Ouais. 40% de part d'audience. Très bon score aussi sur la cible. 43% des femmes responsables des achats. Véritable bulldozer qui forcément écrase un peu la concurrence. Ensuite, on trouve au coude à coude M6 avec son film d'animation Ratatouille. C'était déjà diffusé, donc forcément, ça souffre un peu du carton de TF1. 2 180 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience et au coude à coude donc avec France 2, envoyé spécial, qui s'en sort bien dans sa haute moyenne. Hein, 2 170 000 téléspectateurs, 9,1% de part d'audience.
Culture Média. C'est quand même un rapport de 1 à 3 ou à 4, c'est complètement dingue. Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une, pas de journal 20 minutes aujourd'hui.
Ouais, ni dans sa version papier, ni dans sa version numérique, sa rédaction est en grève depuis hier, grève très suivie. 90% des journalistes ont voté pour. Ils protestent entre autres contre des suppressions de postes, 6 dont 2 à la rédaction, alors que le journal, gratuit je vous le rappelle, est fragilisé par la crise sanitaire. La publicité, sa principale source de revenus, s'est effondrée. Le dialogue social, décrit comme délétère par les grévistes, doit toutefois reprendre aujourd'hui. Une réunion doit se tenir ce matin entre les syndicats et la direction.
Feu vert pour Vivendi, autorisé à racheter Prisma Media.
L'autorité de la concurrence a donné son accord hier. Elle autorise l'opération sans condition. Il n'y a aucun problème de concurrence, dit-elle en substance. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré va donc pouvoir acquérir une vingtaine de magazines comme Gala, Voici, Télé Loisirs, Femme Actuelle ou encore Capital. Une acquisition qui devrait être effective dans les 2 mois qui viennent. Montant estimé de la transaction entre 100 à 150 millions d'euros selon plusieurs journaux.
Et puis dans l'actualité des médias encore, le retour annoncé de Stéphane Guy.
Le journaliste sportif va rejoindre 2 chaînes du groupe Altice, BFM TV et RMC. Il y interviendra pour commenter l'Euro de football qui commence le 11 juin, 11 juin, 11 juillet. Un mois d'antenne donc pour Stéphane Guy, qu'on n'avait plus entendu depuis son licenciement de Canal+. C'était en décembre dernier, à la veille de Noël. Un licenciement qu'il conteste en justice. Il avait été renvoyé pour avoir apporté son soutien à l'humoriste Sébastien Thoen, lui aussi licencié quelques quelques jours plus tôt pour une parodie.
Encore un journaliste qui se lance dans la bataille des régionales.
Perico Legas, c'est l'un des rédacteurs en chef de l'hebdomadaire Marianne, journal dont il va se mettre en congé pendant la durée de la campagne. Il est candidat en Centre-Val de Loire sur la liste conduite par le ministre Modem Marc Fesneau. Cette annonce intervient deux jours après celle de la candidature de Philippe Ballard, désormais ex-journaliste de LCI, qui a rejoint le Rassemblement National.
Deux changements dans la série de TF1 « Demain nous appartient ».
Voilà, un nouveau départ, effectivement, et puis une arrivée aussi. Le départ, c'est celui de l'actrice Linda Hardy. Elle jouait le rôle de Clémentine depuis 2018. C'est Télé 7 jours qui l'annonce. La comédienne précise que la décision ne vient pas d'elle, mais des auteurs. Un départ définitif, dû notamment à l'arrivée de nouveaux personnages, dit-elle, et donc de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices. Et justement, le site Pure Média a révélé l'arrivée prochaine de Catherine Jacob au casting de Demain nous appartient. Actrice, je suis sûr que vous vous en souvenez,
mais
qui
oui.
s'était fait connaître par son rôle de Marie-Thérèse dans La vie est un long fleuve tranquille, mais c'est pas moi. Madame, j'ai rien fait. Elle a joué. Je le fais bien, non ?
Quel acteur ?
Une imitation pour la 400e. Fallait ça.
Elle a joué depuis dans bien d'autres films et d'autres séries. Elle va interpréter le rôle de Brigitte, la mère du docteur William Donnier, incarné par Kamel Belghazi. Début des tournages le 19 mai.
Et puis le focus programme du jour à présent, c'est un documentaire sur l'adolescence dans le cinéma français. Dreams are my
reality. The only kind of reality. Ça vous fait penser, Philippe ?
Alors, je veux dire, j'ai pas vu le film, évidemment, on reconnaît la chanson de La Boum signée Vladimir Kosma.
Vous n'avez pas vu le film ?
Non.
Jamais.
Mais je suis passé après, c'est la génération d'après.
C'est l'occasion, justement, vous allez le voir, Philippe. Reality, c'est le titre de cette chanson, effectivement. C'est l'un des films cultes sur l'adolescence. La Boum, l'un des films les plus connus. Il y a aussi Diabolomante, Le Péril Jeune, À nos amours, cela vous les avez vus ?
Les trois, je les ai vus.
Bon, très bien.
Il manque La Boum.
Entre autres films, entre beaucoup d'autres, c'est ce qu'a constaté le réalisateur de ce documentaire diffusé demain soir sur Canal Plus Cinéma. Les ados, tête à clap, c'est son titre. Le réalisateur s'appelle Patrick Fabre.
Je pensais, de par ma connaissance du cinéma, avoir fait un petit peu le tour de la question. Et puis j'ai commencé à fouiller, à gratter, à chercher, à travailler. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de films. C'est-à-dire qu'on est passé des 25 films que j'avais en tête à plutôt pas loin de 200. Et encore, je pense qu'on peut encore en trouver sur cette simple période, en gros, des années 70 à aujourd'hui. C'est vraiment un genre, c'est vraiment une thématique qui est forte dans le cinéma français.
Sport de foot.
Et je ne m'attendais pas à trouver autant de films.
Le documentaire s'intéresse à l'évolution de la représentation des ados au fil des ans, avec de nombreux intervenants, comme Dominique Besnéard qui revient sur les castings des jeunes acteurs et jeunes actrices devenus stars de cinéma, avec de jeunes acteurs actuels aussi, comme Céleste Brunkel, révélée dans le film Les Éblouis et qui crève l'écran dans la série En Thérapie.
Ah oui.
Et puis avec des réalisatrices et des réalisateurs comme Diane Curis, Cédric Clapiche ou encore Maïmouna Doucouré, à qui on doit le film Mignonne. Des cinéastes qui ont un point commun, selon Patrick Fabre, une certaine nostalgie.
Je pense qu'ils sont rarement aussi proches d'eux-mêmes que lorsqu'ils racontent leur adolescence ou leur enfance. Mais dans l'adolescence, puisque c'est un moment important de la vie où on se forme, on fait des choix, on marque ses goûts, etc., là, forcément, il y a quelque chose de plus, qui me semble plus important pour eux. Donc, à chaque fois, de voir ces films dans lesquels ils s'exposent, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Patrick Fabre, réalisateur du documentaire Les ados tête à clap, film à la mise en scène très soignée, des interviews très esthétiques. Il est à voir demain soir sur Canal Plus Cinéma à 20h ou dès à présent sur MyCanal. Eva Rock en diffusera quelques extraits vers 10h dans son zapping du lendemain.
Et puis pour terminer, la chaîne L'Équipe qui acquiert de nouvelles compétitions.
Et des compétitions d'athlétisme national et international. Elle va notamment retransmettre les championnats de France et le meeting de Paris. Au programme encore trois autres meetings, ceux de la Ligue de Diamant, le principal circuit international. Des compétitions que les fans pourront aussi retrouver sur une offre payante portée cette fois par une start-up française, Sport Hall, offre numérique, web et application. Ça s'appelle athlé.tv pour le moment. Elle proposera également d'autres grands événements autour de l'athlétisme.
Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. On vous retrouve lundi tous les deux pour un nouveau journal des médias et les audiences du
week-end.
Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à un doc sur les moments clés de la vie de Napoléon. Et quel moment clé ? Personnage historique presque immortel, il a failli mourir 6 fois avant de passer l'arme à gauche, comme tout le monde. On en parle avec Mathieu Schwartz, auteur et réalisateur du documentaire « Napoléon, la destinée ou la mort ». Quelle musique !
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
C'était en fin d'après-midi, un jour de mai 1821, en pleine automne australe, il y a près de 200 ans donc. L'ex-empereur des Français mourait, une mort lente, une mort douloureuse. Napoléon Ier décédait enfin, lui qui avait si souvent manqué de mourir au cours de sa vie, d'où ce terme « enfin ». Il avait défié la mort, il l'avait même cherché, elle lui servait alors, pensait-il, à révéler sa bonne fortune et sa destinée, à asseoir son autorité puis son pouvoir et enfin à construire sa légende. Évoquer la mort pour mieux raconter la vie de Napoléon, c'est l'idée, l'argument d'un documentaire diffusé demain soir sur Arte. Bonjour Mathieu Schwartz.
Bonjour.
C'est vous qui avez écrit et réalisé ce doc, Napoléon, la destinée et la mort. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet angle ?
Ben, j'avais envie d'essayer de faire un peu un portrait psychologique de Napoléon, ce qui est un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il pense. Et en fait, c'est ma productrice, Agnès Molia, qui m'a dit « tu devrais regarder ». Elle connaissait mieux Napoléon que moi à ce moment-là. Elle m'a dit « pour moi, Napoléon, c'est un peu comme Jacques Bauer, le héros de 24 heures. C'est un type, il ne meurt jamais, il s'en sort tout le temps. » Elle dit « tu devrais regarder de ce côté-là ». Et donc, effectivement, j'ai commencé à creuser ce sillon. J'en ai assez vite parlé avec des historiens, notamment avec Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, qui était notre conseiller historique sur ce projet. Mmh. Et il m'a dit, effectivement, c'est un truc intéressant. Napoléon, effectivement, défie la mort. Il y a quelque chose dans sa relation avec la mort qui est assez intéressante parce que finalement, ça lui permet de construire sa légende. C'est un type qui est persuadé qu'il a une destinée très tôt. Et finalement, quand il rencontre quand il affronte la mort, c'est une façon pour lui de voir finalement si sa mission est terminée ou pas.
Et oui, et il a frôlé la mort, Napoléon, à plusieurs reprises. Vous en relevez pas moins de 6, des batailles, un attentat à la bombe, une tentative de suicide. J'ai découvert ça, on va y revenir. Il a passé sa vie, vous venez de le dire, à construire sa légende à travers ce rapport à la mort. Il la défie, on vient d'en parler. Intervient alors une notion fondamentale. Pour bien comprendre sa psychologie et ses actions, c'est son rapport à la chance. C'est ce que vous dit Patrice Guénifet, c'est l'un des 6 historiens que vous avez interrogé dans ce documentaire.
Il croit à la fortune, avec une majuscule, avec un F majuscule. C'est-à-dire que tant que la fortune sera avec lui, il ne craint rien. Et il est convaincu que la fortune restera avec lui tant qu'il ne sera pas arrivé au terme, comme il dit, de son destin, de son histoire. C'est un homme très rationnel, c'est un homme très calculateur. Mais en même temps, cette part de rationalité est tempérée par une irrationalité qui est celle d'un joueur. C'est aussi quelqu'un qui est prêt à tout miser sur un coup, au risque de tout perdre.
Tout miser sur un coup, c'est ce que fait Napoléon en novembre 1796 lors de la fameuse bataille du pont d'Arcole, bataille de la campagne d'Italie. Il est alors seulement le général Bonaparte à la tête de l'armée révolutionnaire. Factuellement, que s'est-il passé ?
Alors, Arcole, c'est intéressant parce que, à la fois, effectivement, ça montre son rapport à la mort et ça montre son rapport à la légende. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à Arcole ? Arcole, bon, il doit traverser un pont, c'est un peu compliqué, il y a des ennemis en face, etc. Il prend lui-même la tête de la troupe, des soldats, et donc il se met en danger. Il se met en danger, et en fait, cette traversée du pont d'Arcole est un échec. C'est-à-dire qu'effectivement, il part à la tête des soldats. Il va tomber dans la boue, plus ou moins s'évanouir. Il va être sauvé par son frère. Les soldats vont reculer et le pont ne va pas être traversé. Il sera traversé, mais quelques jours plus tard, avec des renforts, et ce n'est pas lui qui va le traverser. Mais en fait, cette traversée du pont d'Arcole va rester le moment le plus important, celui dont on se souvient de toute la campagne d'Italie.
Et ce que je découvre grâce à vous, c'est que ce que je prenais pour une victoire était en fait une défaite, mais il en fait une victoire.
C'est ça. C'est tout l'intérêt. Il traverse le pont d'Arcole et en fait, le fait qu'il ait bravé la mort, qu'il ne soit pas mort, etc., ça lui permet de construire son invincibilité et il va construire sa légende. C'est-à-dire qu'il va notamment faire un tableau par le peintre Gros qu'on connaît, qui est le tableau où on le voit tournant la tête comme si c'était une sorte d'allégorie de l'histoire. Et ce tableau, il va en faire un élément essentiel de sa promotion, alors qu'en fait, c'est une défaite.
Et puis, on a une émission média ici aussi. Il écrit des textes très élogieux dans un journal, Le Courrier de l'armée d'Italie.
Oui, parce qu'en fait, Napoléon, c'est sans doute peut-être un des premiers grands propagandistes, peut-être le premier grand propagandiste moderne. Et donc, effectivement, il a conscience dès le départ qu'il doit construire son image et sa légende. Vous savez, il a compris très vite qu'il ne fallait pas seulement faire, mais il fallait le faire savoir. Donc il y a d'abord effectivement ces courriers qu'il envoie à ses soldats dans l'armée d'Italie où il dit « je vais plus vite que l'éclair, je frappe plus fort que la foudre ». Enfin, il ne dit pas « je », il dit Bonaparte, mais en fait c'est lui qui écrit les textes, ouais. C'est ça, on a des brouillons, on sait que c'est lui qui les a écrits.
D'accord.
Ensuite, il y a tous ces tableaux pendant son règne où il se montre comme ce tableau de Marengo où on le voit avec un cheval blanc franchir le col, alors qu'en fait il l'a franchi avec un âne quand même. Mais bon, voilà, les tableaux vont faire l'éloge de ses victoires.
Juste un mot, Marengo, c'est le peintre, c'est le cheval, c'est pas le peintre.
Marengo, c'est la bataille. Marengo, c'est la bataille. Et le col de Marengo, il traverse à la bataille de Marengo. Pardon, Marengo, c'est le nom de la bataille. Et quand il traverse ce col en Italie, et on le voit traverser le col sur un cheval blanc, alors qu'en fait, il l'a traversé sur un mulet. La propagande doit le montrer dans toute sa splendeur. Et même à la fin de sa vie, le mémorial de Sainte-Hélène, qui est finalement plus ou moins le moment où il écrit ses mémoires, enfin où il dicte ses mémoires, il réécrit complètement son histoire. C'est-à-dire que c'est un type qui a complètement compris que la propagande était un élément absolument essentiel pour sa légende.
Voilà, et si je me souviens bien, j'ai entendu dire aussi que Marengo, c'était son cheval préféré. Voilà pourquoi je vous posais la question.
C'est
la
possible, gloire, vous en savez plus que moi.
La gloire, je connais juste ça. La gloire et le pouvoir vont de pair avec la mort, que Bonaparte défie, venez de nous le dire, Mathieu Schwartz. Nouvel exemple avec un schéma identique à celui d'Arcole. Il tente sa chance, il échoue, mais il en fait un succès après coup. Il s'agit de l'épisode du coup d'État du 18 Brumaire, pendant lequel Bonaparte se présente devant les députés, des deux chambres. On est en 1799. Que se passe-t-il ensuite ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il pense faire un coup d'État. Assez tranquillement, un coup d'État, on va dire, de velours. Sauf qu'il est un peu pressé et il s'attend pas à ce que les députés résistent, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude des parlementaires, c'est un militaire. Donc il essaye d'aller les convaincre, ça se passe très mal. Il se prend quelques coups de poing et il fait un malaise, il est évacué. Il a eu peur à ce moment-là. Ouais. C'est peut-être la seule fois de sa vie où il a eu peur.
Parce que là encore, c'est incroyable. Quand il se passe quelqu'un, quand il y a un homme politique qui fait un geste un peu très fort, on dit « mais c'est le 18 Brumaire ». Alors là, c'est l'inverse. Il l'a un peu raté, mais il l'a fait croire, sa légende a fait croire qu'il avait réussi son coup.
Alors en fait, il a réussi, oui. Surtout ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, en fait, il s'est fait un peu bousculer, mais c'est tout. Hein. Bon. Sauf qu'il a eu très peur parce que la foule, c'est quelque chose qui lui fait peur. Autant il n'a pas peur des balles, des fusils, autant la foule se faire lâcher par la foule.
Mais comment a-t-il retourné ça à son avantage?
Alors, il retourne ça à son avantage parce qu'en fait, en sortant, il va faire passer le mot qu'en fait, il a failli se faire assassiner parce qu'il y avait des poignards. Et notamment, il va être aidé notamment par son frère, qui est un de ses frères qui dirige l'Assemblée. On va dire, on a essayé d'assassiner Bonaparte, etc. Et donc, du coup, il devient une sorte de César qui a réussi. Parce que César, lui, il est mort sous les poignards au Sénat. Et lui, non. Lui, il a échappé aux poignards. Et du coup, ça renforce encore son aura.
Tout coucou et Mifili, toi aussi mon fils, c'était César. Napoléon parlait en français, on continue d'en parler avec Mathieu Schwartz. Documentaire très très intéressant et totalement inédit dans sa manière de voir l'histoire. Napoléon, la destinée ou la mort, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Mathieu Schwartz qui signe un documentaire passionnant, Napoléon, la destinée et la mort. C'est demain soir sur Arte à 20h50 où l'on apprend que Napoléon a échappé pas moins de 6 fois à la mort. On a parlé du coup d'État, on a parlé de 18 Brumaire. Napoléon, à la suite de quoi Bonaparte, est nommé consul, il dirige la France, il engage des réformes et il continue toutefois à être contesté. Et le voici, cible d'un attentat en plein Paris, près des Tuileries, rue Saint-Nicaise, rue qui n'existe plus aujourd'hui, ne la cherchez pas dans le plan. Un attentat à la calèche piégée, d'une violence inhabituelle pour l'époque, c'est ce qu'explique Chantal Prévost. Elle est responsable des bibliothèques de la Fondation Napoléon. On l'écoute.
L'attentat de la rue Nicaise a été un attentat extrêmement violent pour l'époque. Et ça, on a peut-être un peu oublié à l'heure actuelle l'impact sur la population du mode opératoire qui était tout à fait nouveau pour l'époque. C'est plus de 20 morts, c'est plus de 60 blessés, dont certains très graves. Ce sont des corps démembrés, ce sont des corps brûlés. En fait, c'est une scène de guerre en plein Paris. En quelque sorte, c'est le premier attentat terroriste moderne à Paris.
Encore une fois, Bonaparte frôle la mort et là, il s'en sert non pas pour construire sa légende, quoique il apparaît invincible, mais aussi pour asseoir son pouvoir. Que fait-il alors ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, il va utiliser la mort, finalement, pour rebondir. Donc, d'une part, il va éliminer... il a deux problèmes. Il a les Jacobins et les Royalistes. Donc, il va d'abord éliminer les Jacobins, alors qu'en fait, ce n'est pas eux qui ont fait l'attentat.
On a su après
et ensuite,
que c'est les
quand on va savoir que c'est les Royalistes, mmh. ils s'en doutaient déjà un petit peu, il va aussi éliminer les Royalistes. Donc, il élimine en gros tous ses opposants politiques. Et en plus, il va profiter de l'émotion que ça a créée, parce que quand même, ça inquiète. On est à une période qui commence à être un petit peu plus stable. Le fait qu'il ait pu se faire assassiner inquiète la population. Il va en profiter pour renforcer son pouvoir et pour se faire nommer consul à vie, qui va être la dernière marche avant de devenir empereur.
Il se lance alors dans un grand programme de réforme de 1800-1803. C'est pendant cette période, justement, 1800-1803, qu'il rétablit l'esclavage. Vous n'en parlez pas dans le documentaire. Pour quelle raison ?
Parce que c'est pas du tout, si vous voulez, c'était pas du tout le sujet. Là, on est sur un portrait psychologique de Napoléon, donc c'est un élément important. Mais il y a plein de choses dont je ne parle pas sur Napoléon.
Dans les années qui suivent, il essuie ses premiers revers, la campagne de Russie notamment en 1812, des revers qui s'accumulent sur le champ de bataille. Il a des comportements parfois suicidaires, comme à Arcis-sur-Aube. Nous sommes en mars 1814, son armée recule. Et un mois plus tard, épisode totalement méconnu que j'ignorais, il tente de mettre fin à ses jours en avalant du poison. Pourquoi du poison et pourquoi le suicide ? Réponse de l'académicien Jean-Marie Rouard.
Il a le sentiment que sa destinée arrive à son terme. Et en même temps, c'est un homme de culture antique. Donc, il pense à tous ces hommes dans l'Antiquité qui ont mis fin à leur jour. Et au fond, je crois que c'est l'image qu'il veut donner. Il veut donner pour la postérité, puisque c'est la question qui l'obsède, qui est la plus importante, eh bien d'un homme qui, finalement, n'a pas accepté d'être un vaincu. Et la façon de ne pas accepter d'être invaincu, c'est de quitter ce monde.
Alors, tentative de suicide, mais tentative seulement, il ne meurt pas. Comment échappe-t-il encore une fois à la mort ?
On n'en sait rien, en fait. Il avait du poison sur lui au cas où il tomberait dans une embuscade pour pouvoir effectivement mourir. Il boit ce poison. Et il ne meurt pas. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que le poison était éventé. Peut-être qu'il a appelé finalement assez vite. On ne sait pas parce qu'il y a eu plusieurs versions. Est-ce qu'il est resté longtemps seul ou pas ? On ne sait pas exactement. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il a vraiment bu ce poison et qu'il en est vraiment sorti. Ce qu'il a le conforte, encore une fois, sur le fait qu'il a une destinée, qu'il doit continuer sa mission.
Épisode très méconnu, sinon, je veux dire, pour ma part, totalement inconnu. Vous saviez, avant de commencer ce documentaire, que Napoléon a fait une tentative de suicide ?
Non, alors moi je ne le savais pas, évidemment tous les historiens le savent. Ouais. C'est vrai que c'est resté complètement
méconnu. Je posais la question différemment, pourquoi oui. ça ne se sait pas ? C'est un événement majeur et c'est un personnage majeur.
Déjà c'est quelque chose que lui a complètement occulté après. Les premiers témoignages sont arrivés plusieurs années après sa mort. Et puis c'est une petite tâche quand même dans ce personnage, si vous voulez, qui par ailleurs a dit après que le suicide c'était pas la bonne voie, hein, qu'on pouvait mourir sur le champ de bataille, mais pas se suicider. Et donc comme il y a eu toute une espèce de légende dorée après Napoléon qui l'a complètement magnifié, sans doute que c'est quelque chose qui est resté assez peu connu, en tout cas du grand public.
Je vais sauter des épisodes. Napoléon finit par abdiquer. Il est envoyé sur l'île d'Elbe. Il revient. Ce sont les fameux 100 jours. Là encore, un face-à-face avec la mort qui lui fait dire que sa bonne fortune est revenue. Face-à-face avec l'armée royaliste. Puis, je passe encore des détails. Il est renvoyé à Sainte-Hélène, un îlot perdu dans l'Atlantique Sud. Là, il attend la mort. Il ne la défie plus. Il la prépare même. Il veut la mettre en scène. De quelle manière ?
Déjà, pour la mettre en scène, il essaye de se transformer en martyr. Il va se transformer en martyr. Donc, il y a à Sainte-Hélène, il y a un gouverneur anglais qui est un peu obtus, qui s'appelle Hudson Lowe. Et donc, il va faire de ce gouverneur un méchant. Et donc, il va expliquer qu'il est complètement martyrisé et il va faire exprès de rester enfermé alors qu'on lui demande de sortir, etc., pour apparaître comme un martyr. Il a une phrase assez incroyable, il dit le martyr me dépouille, je crois, de ma peau de tyran. C'est-à-dire qu'il comprend très bien que là, il y a quelque chose, qu'il est en train de changer son image et que tous les aspects négatifs sont en train de disparaître sur le fait qu'il est brimé, qu'il est à Sainte-Hélène, que les Anglais sont des méchants et qu'il va mourir en martyr.
C'est étrange parce qu'il comprend la communication moderne où il faut toujours se faire passer pour une victime. Pour mettre un sujet historique à la télévision, il y a une question qui se pose toujours évidemment, c'est comment le mettre en image. Là, il n'y a pas d'image filmée de la vie de Napoléon et pour cause, il y a quelques tableaux, ceux de Gros, ceux de David, vous l'avez dit. Il y a aussi des lieux marquants, importants, Fontainebleau, l'île d'Elbe, mais ça ne suffit pas. Et vous, vous avez choisi, Mathieu Schwartz, le dessin, l'animation pour faire revivre certaines scènes. Pour quelles raisons? Et ensuite, je vous demanderai comment.
Alors, je vais répondre un petit peu aux deux en même temps. C'était en fait l'animation, ça nous permettait à la fois de raconter l'introspection et l'action, si je puis dire. L'introspection, c'est-à-dire qu'on a un premier procédé qui est les moments justement avant ses morts, enfin avant ses confrontations avec la mort, où on voit Napoléon réfléchir, se poser des questions. Ça, en fait, c'est joué par un acteur. C'est un procédé qu'on appelle la rotoscopie. C'est joué par un acteur. Et ensuite, on redessine sur l'acteur. Ouais. Donc, c'est un personnage animé dans un décor réel. Et puis ensuite, on passe à l'action. Et donc là, c'est compliqué. Par exemple, la fiction, c'est compliqué dans l'action quand on a des batailles, etc. Et donc là, c'est du dessin. Et c'est le même dessinateur, si vous voulez, qui dessine sur le personnage, sur la rotoscopie et ensuite dans les dessins de bataille, ce qui nous permet d'avoir le même Napoléon qu'on retrouve et d'avoir à la fois, de pouvoir à la fois raconter ces moments d'introspection et ces moments de bataille où là, c'est juste simplement des dessins avec des mouvements sur les dessins. Donc, Arcole, par exemple, vous avez Napoléon qui réfléchit avant la bataille. Donc là, c'est la rotoscopie. Et après, hop, on passe dans la bataille d'Arcole. Et là, c'est du dessin.
Le nerf de la guerre, il y a beaucoup de producteurs qui nous écoutent. Le dessin, c'est moins cher ou c'est plus cher que de faire rejouer des scènes par des comédiens?
C'est pas moins cher, c'est très très cher l'animation, c'est très compliqué, ça me prend énormément de temps. C'était la première fois moi que je me confrontais à ça, la fiction aussi, la vraie fiction. Moi j'ai fait un deuxième documentaire sur Napoléon qui passe la semaine d'après, qui passe le 8 mai, qui là est avec de la fiction. Ça coûte cher aussi, mais il faut pas croire que l'animation c'est pas du tout des petits dessins qui vont permettre de faire ça à moindre coût. C'est très compliqué.
D'accord, on peut dire c'est combien la minute?
Alors, je ne peux pas vous dire, parce que franchement, je ne suis pas producteur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les budgets qu'on a eus pour faire ce premier film avec l'animation et celui qu'on a eu pour faire le film avec de la fiction, en fait, ils sont assez comparables.
Merci beaucoup, Mathieu Schwartz. Je le rappelle, Napoléon, la destinée et la mort, documentaire passionnant, c'est demain soir, donc sur Arte, 20h50. Documentaire dont le texte est dit par Denis Podalydès, ce qui ne gâche rien. Et puis le bicentenaire de la mort de Napoléon, il lancera également largement question sur Europe 1 mercredi prochain. Europe 1 qui lance également un podcast consacré à Napoléon. Napoléon, c'est inconnu, 3 épisodes disponibles à partir de ce lundi. Soyons complets. Merci d'avoir été avec nous dans un instant tout à fait autre chose. On va parler d'un retour, la nouvelle formule de 100 idées, magazine culte des années 70-80. Nous serons avec sa rédactrice en chef, Amélie Lamiran. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Amélie Lamiran.
Bonjour.
Hier, jeudi, c'est un magazine vieux de presque 50 ans qui a fait son retour dans les kiosques. 118 pages et un peu plus, j'expliquerai comment, en couleur. 5,90€. 100 idées, magazine culte des années 70-80, qui vendait jusqu'à 420 000 exemplaires. Pour qui ne l'a pas connu, c'était quoi 100 idées en gros ?
100 idées, c'était un magazine qui a un petit peu bouleversé la presse féminine à l'époque parce qu'il bouleversait les codes.
On trouvait quoi dedans ?
Alors, tout sur le faire soi-même, c'est-à-dire faire ses vêtements, bricoler pour sa maison, faire ses recettes de cuisine, ses recettes de cosmétiques. Finalement, plein de choses qui sont totalement d'actualité.
Comme le dit joliment le JDD qui consacre un papier à cette relance, c'est Cyril Petit qui dit « Le monde d'après ressemble à celui de bien avant ». Et alors, vous êtes journaliste, vous ne travailliez pas à l'époque évidemment à 100 idées, vous êtes beaucoup trop jeune. Tout est parti de votre propre expérience du confinement.
C'est ça, exactement. Donc on s'est retrouvés en fait pendant le confinement avec plein de temps à allouer à des activités qu'on ne pratiquait plus. Ouais. On y a pris énormément de plaisir et on s'est dit, faut en faire quelque chose, faut partager cette expérience.
Vous êtes journaliste, vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Turbulence Presse, un groupe qui a clairement, c'est ça, vous éditez quoi comme magazine ?
Alors on a des magazines de sport, des magazines presse enfant, on a des magazines de cuisine et des magazines sur le bien-être.
100 idées appartient au groupe Marie-Claire, vous êtes le groupe Turbulence Presse, vous avez fait comment alors ?
Alors là, c'est un gros coup de chance, je dirais, parce qu'on était les premiers surpris. En fait, quand on s'est rendu compte que le magazine qu'on voulait créer correspondait quasiment en tout point à 100 idées des années 70, on s'est dit, on va demander à Marie-Claire s'ils sont OK pour qu'on le refasse. Ouais. Et à notre grande stupéfaction et à notre... on était vraiment super contents, ils nous ont dit oui tout de suite.
Marie-Claire donne l'autorisation, oui. Mais pas le financement.
Non.
Vous le financez comment alors?
Donc en fait, on leur donne, on leur reverse un pourcentage sur les ventes en fait.
Mais après, il a fallu le créer. Il y a eu de la participation, si je suis bien informée.
Oui, c'est ça. On a fait une campagne de lancement en fait pour lancer le projet justement. Et on
sur
s'était
Kiss Kiss Bank Bank, je vais le dire.
C'est ça, c'est ça. Ouais. On s'était mis comme objectif de faire 300 préventes. On en a fait 8000. C'est allé très très vite. Avant même que le magazine soit en kiosque, hier, on avait 1200 abonnés. Et hier, 150 de plus, on est super contents.
Et là, peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont en train de s'abonner. Dans l'édito, vous racontez avoir épluché tous les anciens numéros de 100 idées, par définition, pour piquer des idées.
Ouais.
vous en avez retiré quoi?
J'en ai retiré que finalement, tout ce qui était dans ces magazines-là était, ce que je vous disais tout à l'heure, totalement d'actualité. C'est-à-dire que c'est totalement tendance. Je pense que les gens aujourd'hui ont complètement besoin de ça, cette espèce de retour au faire soi-même, à la personnalisation de vêtements, de la fraîcheur, de la joie, de la gaieté dans tout ce qu'on fait.
Bien sûr, je vais parler du recyclage, mais d'abord un mot, vous avez retrouvé le directeur artistique du premier 100 idées, il s'appelle Jean-Pierre Marche. Il a plus sa moustache, mais sinon il a à peu près la même tête.
Ouais.
Vous avez conservé son logo.
Oui. Alors, ça faisait partie des choses qu'on voulait conserver.
En grosses lettres rondes, bien 70s.
C'est ça, c'est le logo que Jean-Pierre Marche avait créé. Et toutes les styles de police à l'intérieur du magazine, la maquette, on a vraiment repris les codes des années 70.
Voilà, la tendance du recyclage, je l'ai dit, est passée par là. Et vous l'avez dit aussi, juste une info, le textile est le deuxième poste de pollution sur la planète après le transport. Et vous, par exemple, vous trouvez des solutions pour recycler les vieux jeans, pour ne pas jeter, pour ne pas racheter.
C'est ça.
Ou alors il y a des tutos couture. Par exemple, comment se faire, c'est un tuto couture, comment se faire une robe longue, page 34. Bim, la voici, attendez, je fais tomber ma gourde, justement, moi j'ai une gourde recyclable. La robe longue de Léa.
Oui.
Et alors en petit, il écrit, alors je me dis quand même, on est assez loin de Dior et de Givenchy avec cette robe longue, c'est pas lui faire injure. Et en tout petit, il écrit, ce patron est celui d'une djellaba traditionnelle.
C'est ça.
On va pas aller non plus au bal des débutantes avec cette robe.
Non.
C'est quatre pièces de tissu, je vous le reproche pas, mais c'est un choix.
Oui, c'est un choix. L'idée, c'est vraiment de proposer des vêtements qu'on peut porter au quotidien. En fait.
Ouais. Page 46, jamais j'aurais cru que le raffia revienne à la mode. Est-ce que ce sont des photos d'époque qu'il y a dans le magazine? Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe. Personne n'a de téléphone, personne n'a d'ordinateur, personne n'a de portable. Et je me suis dit, vous avez fait exprès pour qu'on ne puisse pas dater? Ou est-ce que ça, c'est une ancienne photo de 84
que
vous avez remise?
Non, pas du tout. C'est vraiment... en fait, on a...
C'est vraiment quoi? C'est vraiment ancien ou c'est vraiment nouveau?
Non, c'est vraiment nouveau.
D'accord. Ce que vous ne l'avez pas dit. vous avez utilisé d'anciennes photographies?
Non. Par contre, on s'est inspiré des anciens tutos, notamment pour le tricot.
Ouais.
Donc, on est reparti des anciens patrons et on a refait tricoter les pulls. Idem pour la partie enfant, on a un énorme serpent qui fait 4 mètres de long. C'est pareil, c'est un ouvrage que j'ai fait refaire pour avoir des photos actuelles, justement.
Un serpent, c'est pas un vrai serpent, c'est un faux serpent. Il y a un cahier central en noir et blanc qui peut se détacher ou pas dans un autre papier. On parlera du papier après. Savoir-faire sans panique, c'est quoi le but? C'est comme des tutos, mais sur papier.
L'idée, là, en fait, c'est vraiment... Mais ça aussi, c'est quelque chose qui existait dans le magazine d'origine. C'est-à-dire que on a... comment dire, une photo qui vous donne envie de faire la création et dans le cahier explicatif, on retrouve tous les schémas et justement tout le déroulé des étapes pour pouvoir réaliser sa création facilement.
Ouais, facilement ?
Oui.
Alors, parfois, c'est quand même assez difficile. Vous consacrez 8 pages au pain,
oui.
Donc 4 pages pour apprendre à faire le pain soi-même. Ensuite, il y a 4 pages de recettes autour du pain. Bon, déjà, c'est pas facile faire son pain soi-même. Mais alors là, attention, je vais me permettre de lire. Vous donnez la recette pour faire soi-même son propre levain.
Oui.
Alors là, c'est carrément mission impossible. Alors, écoutez ça, mesdames, messieurs. Il faut, pour faire son levain, il faut 100 g de farine T65, 100 ml d'eau et 10 g de miel. Mélangez le tout dans un bocal et refermez. Laissez reposer à température ambiante 48 heures. Lorsque des petites bulles se sont formées, rafraîchissez alors votre levain. Pour cela, prélevez 100 g de préparation et jetez le reste. Puis rajoutez 100 g de farine et autant d'eau. Mélangez et gardez le bocal à température ambiante 36 heures. Recommencez l'opération une troisième, puis une quatrième fois, en attendant 36 heures à chaque fois. Votre levain chef sera prêt en 8 à 9 jours. Vous serez alors prêt à le stocker hermétiquement au frigo. Bon, c'est une complication extrême.
Non, c'est pas compliqué en fait.
Ah bon, vous l'avez fait chez vous ?
C'est une collègue à moi qui l'a testé.
Mais vous ne l'avez pas fait chez vous ?
Moi, je ne l'ai pas fait parce que, par contre, tout l'article sur le pain est vraiment un retour d'expérience puisque pendant le confinement, nous, on a fait notre pain, nos gâteaux.
Mmh.
même notre peinture pour repeindre le bureau. Voilà.
Je ne vous le reproche pas, vraiment, je dois dire, parce que pour avoir lu tout le magazine, vraiment, pour être exhaustif, parfois c'est très pointu, et sinon c'est très facile. On continue d'en parler, et aussi la manière dont vous avez fait ce magazine, notamment le papier, le prix, toutes ces choses-là. On continue à parler de Centidée avec sa rédactrice en chef, Amélie Lamiran. A tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Amélie Lamiran, elle est rédactrice en chef de Centidée qui renaît. Nouveau magazine, le numéro de mai-juin, c'est le numéro 1. Nouvelle formule, si j'ose dire, quoi qui ressemble beaucoup à l'ancienne formule, puisque c'était un magazine iconique, emblématique des années 70-80, qui vendait jusqu'à 420 000 exemplaires. J'ai appris l'histoire en préparant cet entretien. C'était un supplément du magazine Marie-Claire.
C'est ça.
Le supplément marchait très bien, qu'ils l'ont sorti. Et il a vécu sa propre vie avec des scores absolument faramineux. Juste une question, qui est la jeune femme blonde en couverture? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une fille de l'équipe?
Alors, c'est une fille de ma famille.
Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a pas, contrairement aux autres magazines, les photographies ne sont pas des mannequins.
Non.
Qui alors, sont les gens qui posent dans Centidée?
Là aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu reprendre des magazines d'époque. Ça, c'est suite à ma conversation avec Jean-Pierre March. Il m'a expliqué un petit peu comment il travaillait.
L'ancien directeur artistique
de
l'époque.
Ouais. Et on avait donc, en fait, j'avais besoin de comprendre comment ils arrivaient à autant de fraîcheur dans leur proposition icono, en fait.
Ouais.
Et il m'a expliqué qu'ils faisaient du casting sauvage, que en fait tous les gens qui posaient à l'époque dans les 100 idées étaient des gens soit de la rédac effectivement, ou soit des gens de leur entourage. Et c'est exactement ce qu'on a fait, en fait. Donc là, dans le numéro 1, il y a énormément de personnes qui sont soit de notre famille, soit de notre entourage, soit de la rédaction.
C'est très important, je vais vous citer, vous dites avoir dans le magazine des modèles de tous les âges, corpulence, origine, photographiés dans des vrais lieux de vie. C'est vrai que ça change. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours exaspéré dans les magazines de déco. On vous présente des meubles ou des objets. Les gens habitent dans des palaces, ils ont des salles de bain avec 4 fenêtres, elles font 30 mètres carrés. On dit mais qui habite là-bas? Et après, ils vous montrent une petite table à 22 euros. Non, les gens qui ont ces maisons-là, ils n'achètent pas des tables à 22 euros. Vous visez quel public? Est-ce que vous visez les lectrices de la première heure ou les nouvelles arrivantes?
Alors, sincèrement...
Évidemment, vous allez me dire les deux, mais en priorité.
Bien sûr.
Mais en priorité.
Priorité, je dirais qu'on sert vraiment sur, le succès du magazine iconique pour essayer de faire plaisir et, aux fans des années 70. Mais évidemment, comme c'est très tendance de faire des DIY...
DIY, c'est faire do it yourself,
c'est
de l'anglais.
C'est ça. Excusez-moi.
Non, vas-y, il n'y a pas de souci, je traduis pour les gens qui ne parlent pas anglais, c'est tout.
Ça, c'est ultra actuel. En fait, je me rends compte, par exemple, à la rédaction, mes collègues qui sont plus jeunes que moi font toutes du crochet, de la couture, de la cuisine, de la pâtisserie. Donc, je pense qu'on va s'adresser à la fois aux fans donc, qui ont plutôt entre 50 et 70 ans, mais aussi aux gens plus jeunes qui ont envie de faire par elles-mêmes leurs vêtements, etc.
Vous savez quoi? Moi, je pensais que le tricot, c'était un truc de grand-mère. Tout à l'heure, dans quelques instants, on va recevoir la comédienne Gwendoline Amont, qui déclarait à Match que pendant le confinement, elle tricotait.
Ouais.
Donc, comme quoi, c'est quelque chose de moderne. Quelle est la part de citadin versus campagnard?
Alors ça, j'aurais du mal à m'exprimer là-dessus.
Les retours que vous avez, je vais vous dire le sens de ma question, c'est qu'il y a un drôle de paradoxe. Aux élections, vous le savez, sont davantage les gens des villes qui votent pour les candidats écolos, sont les citadins qui sont pour le retour de l'ours ou du loup dans les montagnes et non pas les gens du coin. Et je vous pose la question parce que quand vous publiez un tuto pour fabriquer un poulailler, par définition, il faut habiter à la campagne.
C'est clair. Il faut au minima avoir un jardin. Après, on a pareil. En fait, c'est vraiment un retour d'expérience, tout ça. On a des gens qui habitent en ville, alors certes à Clermont-Ferrand, qui ont des petits jardins et qui ont des poulaillers. Là, l'idée du poulailler, c'est vraiment de proposer quelque chose de petit qui peut du coup s'adapter à des petites parcelles.
Vous avez aussi une fanbase, comme on dit. Pardon, maintenant c'est à mon tour de parler franglais. Oh, vous parlez souvent franglais. Hein. Le scotch, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ah, le masking tape.
Voilà, le masking tape. Ça veut dire du scotch...
coloré, imprimé.
Voilà. Vous avez une fanbase. Les cent idéalistes, qui sont-ils, qui sont-elles?
Alors en fait, ce sont des fans de la première heure qui ont créé, je dirais, au début des années 2000, un blog parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient encore nombreuses à vouloir continuer à faire vivre sans idée.
Alors que le journal n'existait plus.
Le journal n'existe plus, oui, effectivement,
incroyable.
Depuis 88.
Voilà.
Donc, et ça, on s'en est rendu compte en faisant nos recherches au moment où on était vraiment en train de créer le projet, le mettre sur le papier.
Ouais.
Et elles sont hyper actives, c'est-à-dire qu'elles ont un système de veille. Toutes les semaines, c'est une personne qui veille pour le blog, pour répondre aux gens. Et on va dire qu'elles dealent des patrons de tricot et de couture depuis les années 2000, en fait. Ça ne s'est jamais arrêté.
Évidemment, et c'est à elle que vous rendez hommage, qui a une double page de remerciements écrit en caractère très 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 petit. Ça prouve qu'il y a beaucoup de monde à remercier. Donc déjà, rien que pour le numéro 1, ça marche beaucoup. Un mot du papier, vous l'avez spécialement choisi, le papier.
Oui. Alors, c'est du papier qui est recyclé. Ça nous tenait à cœur.
Ouais.
Et on a...
Je dois dire un mot tout de suite. Oui. Ça tient à cœur de tout le monde.
Ouais.
Sauf que ça coûte plus cher.
Bah, ça coûte
c'est
plus cher.
C'est pour ça que c'est intéressant, la
et
question.
Et imprimé en France aussi, ça coûte plus cher. Mais ouais. c'est des choses sur lesquelles on ne voulait pas tergiverser. En
fait. Ouais. C'est un surcoût de combien? C'est 10%, 20%, 50%?
Ouais, je ne pourrais pas vous dire.
Ce matin, j'ai que des gens qui ne connaissent pas les prix. J'ai reçu un documentariste qui ne connaissait pas les prix de la minute. Les encres aussi sont spéciales, sont spécifiques, oui. Et vous les avez souhaitées comme telles.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment une caution qui nous semblait importante pour coller vraiment à l'ADN du magazine qu'on propose.
Alors, je vais le dire, ce sont des encres labellisées Blue Angel pour, je cite, « une meilleure recyclabilité ». Et là aussi, contrairement à la plupart des magazines, vous êtes imprimé en France avec un label, le label Imprime Vert, c'est un meilleur bilan carbone. Là aussi, c'est un énorme surcoût, mais vous êtes un petit groupe. Comment vous avez pu faire accepter ce surcoût, à votre direction et surtout à votre direction
Alors,
financière?
Alors vraiment, c'est un choix qu'on... C'est un choix qu'on met en pratique sur tous nos titres, finalement.
Mmh.
Parce que pour nous, c'est important d'avoir ce côté « écolo », entre guillemets, pour nos magazines.
Ouais.
Et l'autre chose qui fait que pour nous, c'est possible, c'est que notre économie de marché ne fonctionne pas sur la pub. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'est les ventes kiosques. C'est-à-dire que si le magazine ne marche pas en kiosque, ça ne marche pas. On n'a pas de budget pub qui font que le mag est pérenne.
Il y a quelques publicités où elles sont juste, j'allais presque dire, ornementales.
Alors, je crois qu'il y a 4 pages de pub, mais on n'ira jamais vraiment au-delà, en fait. Hein.
Le modèle économique, c'est lequel 5,90€ pour 128 pages, un beau papier, mais qui coûte cher, on l'a dit, parce que c'est du papier français et recyclé. Vous devez vendre combien par mois, en 2 mois, pour être rentable, pour être à l'équilibre?
Là, on est sur, si on en vend 30 000... On est super bien.
Voilà. Vous avez imprimé à combien?
Là, on tire à 80 000 exemplaires.
D'accord. Là aussi, il y a un problème qu'il faudra régler un jour. C'est que tous les journaux le savent.
Ouais.
Pour vendre 30 000, il faut tirer davantage.
Ouais,
si vous tirez 30 000, c'est impossible de vendre 30 000.
C'est ça.
Il y a une déperdition mécanique dans les journaux. Et c'est peut-être un sujet sur lequel il faudra travailler. Le prochain numéro sort dans 2 mois, donc par définition. Là, c'est le numéro de mai-juin. Vous savez déjà ce qu'il y aura en une, ce que vous allez faire dans le numéro 2?
Alors, je n'ai pas le visuel de couve, mais je sais sur quoi je vais travailler.
Allez-y.
Alors, il y aura un grand article sur la Grèce et l'artisanat grec.
Mmh.
On aura le wax mis en avant.
Qu'est-ce que c'est le wax?
Le wax, c'est le tissu africain.
D'accord.
Donc, j'ai des créations qui sont en cours.
Mmh.
On aura une déclinaison autour autour de la broderie.
D'accord.
Et après, le reste est à Calais.
Merci beaucoup, Amélie Lamirange.
C'est
rappelle,
moi qui vous remercie.
Sans idée, qui se trouve aujourd'hui dans tous les kiosques, les librairies, les relais. 114 pages, plus un gros cahier central en noir et blanc, 5,90€ seulement. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
bon
beaucoup.
Vent à Sans idée. Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc passionnant dont on a un peu parlé déjà dans le journal des médias sur la représentation des ados dans les films, et Bertrand Chameroy pour son écran de veille qui s'est intéressé à une séquence qui a beaucoup fait parler hier. C'est Pascal Praud qui est en faveur de la GPA et de la PMA. Oui, notre invitée, c'est Gwendoline Amont qui ne fait pas que tricoter. Elle est comédienne. Et quelle comédienne? Elle incarne la série Cassandre qui revient samedi sur France 3. Et puis dans les indispensables du soleil dans nos assiettes, on va parler de barbecue. Il y a une magnifique cuisine dans ce journal Sans idée et un roman sur la solidarité. Quel programme? À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.